Vous écoutez RTL.
Alors, Laurent Gérard est derrière la glace, il discute gentiment avec Stéphane Boutsock, on le retrouvera dans quelques instants, mais tout de suite, à 8h39 et même à 8h40, la revue de presse avec Adeline François, et dans la presse ce matin, Adeline, tous égaux.
Mais oui, parce que c'est une nouvelle campagne qui, soi-disant, démarre ce matin, la campagne de l'équité parfaite entre les 11 candidats à la présidentielle. Tous font en tout cas ce matin la même taille, 84 cm de haut, 59 de large. C'est la taille réglementaire des affiches des candidats qui vont fleurir sur les panneaux officiels à partir de ce matin. 11 panneaux alignés devant ici une école, là un gymnase ou une mairie. Sont-ils vraiment tous égaux? Il y a deux postes en tout cas particulièrement convoités car ce sont les plus visibles. Nicolas Dupont-Aignan a décroché la timbale, panneau numéro 1. François Fillon un peu aussi puisqu'il aura le dernier panneau à l'extrême droite, le panneau 11. Ainsi en a décidé un tirage au sort du Conseil constitutionnel. C'est Vincent Montgaillard sur leparisien.fr qui raconte les coulisses de cette campagne d'affichage qui a donc débuté cette nuit à minuit. Les portraits des 11 candidats étaient jusqu'à présent stockés dans un hangar à Gonesse, dans le Val d'Oise. 3000 mètres carrés pour stocker 1 million d'affiches. Et le journaliste a assisté au dernier chargement dans les camions. Ici, écrit-il, on ne prend pas les candidats au poste suprême avec des pincettes, mais plutôt avec un chariot élévateur. Faut mettre Le Pen sur la palette, ordonne un manutentionnaire. Enlève-moi le Mélenchon qui traîne, là, enchaîne son collègue. Et Macron, on le met où? Bah dans la benne, blague un camarade en gilet jaune. Sur les panneaux, en tout cas, le candidat d'En Marche sera numéro 3, juste après Marine Le Pen, qui est numéro 2.
Et Jean-Luc Mélenchon ?
Panneau numéro 9 pour le candidat de la France Insoumise, qui est en fait quand même numéro 1 ce matin pour les unes des quotidiens, parce qu'il est désormais le troisième homme des sondages et qu'il pourrait bien se qualifier pour le second tour. Et c'est simple, Mélenchon, bah, il est partout ce matin. Mistral gagnant, plus belle la vie pour Jean-Luc Mélenchon, tout y passe. En une de l'UMA, forcément, avec la photo de la marée humaine sur le vieux port de Marseille. L'aude à la paix, titre le journal communiste. Jusqu'où ira-t-il, se demande le Parisien en une. La lutte des places en une de Libération. Avec ses hologrammes et ses meetings en mode stand-up, il est finalement le seul à avoir dépoussiéré la façon de faire campagne, lui reconnaît ce matin Cécile Cornudet dans Les Échos. Jean-Luc Mélenchon est devenu à la mode, écrit-elle, qu'importe ce qu'il fut, la campagne n'a pas de mémoire. Mélenchon, le point de bascule, titre La Provence, qui parle toutefois de l'aude d'un tribun fatigué. Et La Provence a bonne mémoire et se souvient qu'il y a exactement 5 ans jour pour jour, Mélenchon tenait meeting à Marseille sur les plages du Prado. La foule était plus clairsemé qu'à l'époque hier. Et le discours a aussi été plus court, une heure à peine, avant de rentrer à son hôtel. L'Humanité raconte qu'au même moment, Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF qui soutient Mélenchon, avait réuni des responsables syndicaux, des médecins et des intellectuels pour un moment d'échange dans un bar du Vieux-Port. Et il y avait même Patrick Menucci, soutien de Benoît Hamon. L'invité mystère, se demande l'UMA. Non, non, j'habite à côté, a répondu Menucci. Le nom du bar ? La part des anges. Mais l'Humanité n'ironise pas sur cette partie de l'alcool qui s'évapore pendant son vieillissement.
Tout autre chose à présent, les mystères du cerveau.
Oui, avec d'abord un article du Figaro. Nous ne sommes pas tous égaux devant le café. Titre ce matin le journal, alors pas devant le café du Vieux-Port, hein, mais devant la tasse de café. La substance psychoactive la plus consommée au monde, la caféine donc. Et qu'est-ce qui fait que certains ont besoin de café quand d'autres n'y voient aucun effet? Eh bien, c'est la faute à une enzyme spécifique qui dégrade la caféine. Or, il existe des variants génétiques de cette enzyme. C'est ce qui fait que les effets du café ne sont pas les mêmes sur tous les organismes. Ce n'est pas qu'une impression. Voilà qui complique en tout cas sérieusement la tâche des chercheurs qui s'intéressent particulièrement depuis plusieurs années aux effets du café sur le cerveau, car la caféine ralentirait le déclin cognitif lié à l'âge. Le cerveau, on en parle aussi ce matin dans Les Échos, qui explique comment des chercheurs viennent de découvrir que le cerveau pouvait stocker beaucoup plus d'informations qu'on ne le croyait jusqu'à présent. Oui, parce qu'on a beau être en 2017, certaines parties de notre tête restent des mystères, notamment le fonctionnement mécanique des souvenirs. Et des médecins sont récemment parvenus à détecter l'activité de certains neurones au moment précis de la mémorisation. Ils ont montré à des patients des portraits d'acteurs associés à des images de monuments connus. À chaque fois, le même neurone s'activait et enregistrait simultanément les deux infos. Leur conclusion ? le processus de mémorisation est quasi instantané et surtout, la capacité de stockage est 5 fois plus élevée que ce que la science avait toujours dit jusqu'à aujourd'hui. Les chercheurs ont donné un nom à ce neurone de mémorisation, le neurone Jennifer Aniston, parce que c'est le portrait qu'il montrait aux cobayes. Alors, il faudrait refaire l'expérience ce matin, devant les panneaux officiels de la campagne, pour voir si le neurone Jennifer Aniston serait aussi le neurone Fillon, Macron, Mélenchon ou que sais-je.
C'était la revue de presse d'Anne-Line François.